Bref de semences, le podcast du réseau Semences Paysannes. Depuis 2003, le RSP met en lien des collectifs de paysannes et paysans, jardinières et jardiniers, et autres praticiennes et praticiens des semences autour des enjeux de biodiversité cultivée et d'autonomie.
En 2023, le réseau Semences Paysannes a célébré ses 20 ans. Ses membres se sont réunis pendant 3 jours pour fêter 2 décennies de défense et de diffusion des semences paysannes. Un des temps forts de cet anniversaire a été la table ronde que vous allez entendre dans ce podcast. Elle reprend, autour de 5 moments clés, l'aventure humaine qui a été et qui est le réseau Semences Paysannes. À travers le développement de la recherche participative, les luttes politiques et juridico-réglementaires, la problématique de la valorisation des produits issus de semences paysannes et de l'alternative des communs, puis de la mise en place de l'horizontalité. Ces moments que vous allez découvrir au cours de ces 5 épisodes sont retracés par les voix de celles et ceux qui ont fait vivre le réseau toutes ces années. Alors vous entendrez que comme on a enregistré cette table ronde en live, parfois la qualité de son est un peu inégale, parfois il y a un peu aussi du bruit qui couvre les paroles des intervenants et intervenantes, mais on a fait tout notre possible pour que votre écoute soit agréable. Il y a aussi parfois des prises de parole sans le micro, donc vous verrez, on entendra un petit peu moins bien, mais c'est ce qui fait aussi que cette table ronde a été très vivante. Pour cette deuxième partie, on continue avec l'essor du réseau Semences Paysannes et d'une autre forme de recherche, la recherche participative. Cette période a aussi vu se structurer des programmes d'action organisés par groupes de plantes. Bonne écoute.
On va passer au deuxième moment. Merci beaucoup. Ici, on a des personnes qui vont parler du blé, du maïs, des potagères. Alors, il y a des recoupements partiels entre les moments. Donc. Patrice qui va parler, il aurait pu parler aussi pendant le premier moment. Donc de ce qui s'est fait, et en particulier de la sélection participative, mais pas que. Et puis, on a choisi aussi dans le panel de représenter autant que possible aussi une certaine diversité avec un paysan, une figure à laquelle Bertrand Lassaigne était très, très attaché. Et j'espère que Patrice va nous en parler. Véronique, chercheuse, et Eric, artisan semencier. Donc, ça va être assez, assez divers. Merci.
Donc, je m'appelle Florent Mercier. Je suis paysan en Maine-et-Loire, à côté d'Angers, sur une ferme un peu éculturelle de vaches. Donc, nous, notre métier, c'est plutôt les vaches. Enfin, ma passion première, c'est les vaches. Et en fait, il y a une formation au Gabanjou, le Gab auquel j'appartiens, sur les semences végétales. Donc. Et moi, j'ai dit, je m'occupe de la sélection des vaches, ça suffit, je n'ai pas besoin de m'occuper aussi de ça. Et mon père m'a imposé d'y aller, parce qu'il m'a dit, si ça ne se fait pas, si tu ne vas pas, la formation ne se fait pas, c'est quand même un sujet essentiel. Donc j'y suis allé un peu à reculons, et j'ai rencontré Isabelle Goldringer, une diététicienne. François Delmont, qui est artisan semencier sur la partie plus catalogue, réglementation et tout ça. Et des paysans qui cultivaient des blés paysans qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, mais des blés anciens, on appelait ça à l'époque des blés anciens. Et j'ai trouvé ça formidable et je suis rentré dans le bain, c'est-à-dire d'aller à des rencontres du réseau Semences Paysannes les premières, parce que je n'étais pas à Auschwitz, donc moi je suis rentré juste quelques mois après. Et donc des rencontres du groupe blé, justement, qui était en train de se créer. Et donc à la fois des rencontres dans un lieu fixe et puis des voyages d'études où on allait, par exemple, du sud-ouest au nord-ouest, rencontrer les uns les autres, voilà. Et jusqu'à faire, comme a dit Jean-François, un voyage en Syrie, voyage assez initiatique où aller voir des programmes de sélection participative avec des paysans syriens, un chercheur passionné, et voilà. Ça avec beaucoup de discussions jusqu'à minuit, 2h du matin sur qu'est-ce que c'est qu'un blé ancien, où est-ce qu'on s'arrête, comment on sélectionne les blés, est-ce qu'il faut faire des mélanges, des populations, des croisements, ou des variétés pures, voilà. Tout ça a créé une dynamique forte, a fait que ce groupe s'est lancé dans plein de projets de sélection participative notamment, et plein de groupes se sont formés sur les territoires, donc chez nous... au Gabanjou, mais aussi à Trictolème. Je suis multicasquette, donc je suis dans plein de groupes, mais sur les blés. Et à la fois à initier des choses localement, donc monter des programmes de recherche locaux, comme des collections de blé locales, etc. Trouver du matériel en commun, donc de quoi semer, moissonner, tout ça. Donc faire appel à des fondations pour acquérir une moissonneuse batteuse, un semoir d'essai, des trieurs, etc. Et puis... en discutant avec nos amies chercheuses, donc essentiellement Véronique et Isabelle sur les blés, d'être en interaction pour savoir qu'est-ce que nous on avait besoin comme info, qu'est-ce qui nous intéressait. Et aussi d'un point de vue un peu plus général, un peu plus politique, comme ça a été dit, les semences paysannes ça n'existe pas, alors il faut montrer que ça existe. Et une façon assez simple, autour du blé, ça a été quelque chose d'assez très mis en avant au niveau du réseau semences paysannes, parce que cultiver du blé et sélectionner du blé, c'est quand même un peu plus facile et efficace et rapide que sur du maïs ou sur des potagers verts, parce qu'il y a ce côté plante autogame. Il y a déjà du blé qui était en circulation par certains qui faisaient ça depuis plusieurs années et qui avaient déjà des belles variétés et qui avaient cette transformation aussi d'aller jusqu'au bout à faire du pain à la ferme et que presque de n'importe quel blé, on en fait du pain. Quoi. Et que quand même, il y avait pas mal de variétés où on faisait du super pain avec. Et on s'est lancé dans des programmes de recherche et moi je me souviens, j'ai démarré au tout début avec... en voulant avoir une collection comme chez Jean-François Berthelot avec des beaux blés chez moi. Et puis, de quelques variétés, je suis passé en 3 ans à 200 variétés, avec impliqué dans 3 programmes de recherche. un sur les rouges de Bordeaux, donc j'ai participé à l'expérimentation pour voir comment ces 10 rouges de Bordeaux différents pris dans la collection LINRA des ressources génétiques et chez différents paysans du réseau France Paysanne, et d'ailleurs, est-ce qu'ils étaient pareils, pas pareils, les diversités génétiques, le comportement au champ, etc. Et donc ça nous a pris 2 ans, et même plus, parce qu'à chaque fois, il y a l'analyse des résultats, qui essayait que ça influe les politiques publiques sur les semences, et dire que ça, les semences paysannes existent, et que ce n'est pas antinomique, ce n'est pas contre la conservation in situ, c'est pas contre les variétés du commerce, mais c'est autre chose qui existe.
Tu peux rappeler que ça a été financé par le BRG, je pense.
Oui, financé par le Bureau des ressources génétiques. Donc
c'était déjà une reconnaissance.
Déjà une reconnaissance. Ouais. Mmh. Et c'était pas une mince affaire. Mais après, plusieurs aussi, Isabelle notamment, a déposé plusieurs programmes qui ont été refusés. Puis normalement, ça a été accepté au niveau des financements. Et puis, il y a d'autres programmes, notamment FarmSeed Opportunities, où c'était rentrer dans les programmes européens, du coup, là, avec Véronique, où on se retrouvait avec 10 variétés, à peu près, une dizaine de variétés différentes, des variétés hollandaises, etc. Ça a donné, après, comme c'était cultivé dans d'autres pays européens et dans plein de fermes en France, des bases pour analyser. Après, on peut faire plein de statistiques. Et on peut démontrer ce qu'on a envie de démontrer. Enfin, il y a eu cette phase d'émulation très forte au début du groupe blé, à la fois de temps passé à discuter entre nous sur les blés et d'implication dans des programmes comme ça. Et en plus de ces grands programmes nationaux européens, il y a eu une multitude de programmes locaux. Et donc nous, en 2009, à Triptolem, on a essayé de vraiment faire de la recherche participative, c'est-à-dire... On commence pendant un an à se rencontrer avec les chercheurs, à définir qu'est-ce qu'on a envie de faire, définir les protocoles, etc. Et donc, c'est une sorte de assez vite, finalement, d'aboutir à quelque chose d'assez idéal sur le papier et sur le terrain.
Merci.
Moi, j'ai fait comme Jean-François, j'ai écrit plein de trucs. Mais en fait, j'étais mauvais élève à l'école, donc j'ai appris à écrire, mais pas à lire. Donc je ne vais pas lire. Élise, tu seras invitée à me demander de compléter si j'oublie des choses. Ça va être possible. Donc je suis Patrice Godin, j'ai été paysan depuis avant Louis XV, de père en fils, en biodynamie de 76 à 98 quand j'ai arrêté la ferme. J'étais en polyculture élevage et j'avais un peu tantiné à essayer de faire mes semences, donc un peu sur les prairies et sur les céréales évidemment. Et j'avais aussi fait quelques petites tentatives en tournesol et en maïs, mais c'était assez déplorable. Enfin, bon. Après j'ai arrêté en 98 pour faire un peu de voyage, on va dire. Et quand je suis revenu au pays, j'ai passé un petit coup de fil à mes amis paysans, dont Bertrand Lassaigne et à Grouvieux-Périgord en leur disant, voilà, je rentre, et si vous connaissez un boulot, ça m'intéresse. Et là, ils m'ont dit, banco, on est en train de travailler sur un programme qu'on a intitulé, je crois, production de semences maïs ou expérimentation maïs. Enfin, il n'y avait pas paysanne dedans, en tout cas. Et ça, ça datait déjà de 2 ans, c'était en 2000-2001, donc un peu avant la création du réseau Semences Paysannes. C'est un projet qui était purement paysan. Il est né comment ? Il est né avec beaucoup de réactions de Bertrand Lassaigne, qui s'est retrouvé à un moment donné à se questionner. Donc il y avait cette histoire de réglementation qui nous pendait au nez, et donc il se voyait être obligé de semer les semences certifiées pour l'ensemble de ses cultures pour être en bio, et notamment en maïs. Et en même temps, c'est une année où on a retrouvé des semences bio qui étaient infestées par des OGM. Donc il a fait ni un ni deux, il a pris l'avion, il est allé au Guatemala, et il est revenu avec des super graines de maïs. Et donc en rentrant, moi j'ai été directement descendant de l'avion, j'ai installé la première plateforme d'expérimentation et d'observation chez Bertrand avec des maïs du Guatemala. Donc quand on est arrivé en novembre et qu'ils n'avaient pas fini de pousser, qu'ils étaient déjà à 4,50 de haut, on aurait peut-être fait une erreur, mais en tout cas le plan était lancé. Moi j'avais eu un mois pour implanter cette parcelle, et Agrobio-Périgord m'a dit, on t'emploie pour un mois, si dans un mois on n'a pas de retour de financement, que les subventions ne sont pas accordées, voilà, tu rentres chez toi et puis voilà, on trouvera autre chose. Bon. Au bout d'un mois, il n'y avait pas de retour d'accord de subvention, donc je suis reparti et je suis revenu, j'ai traîné un peu sur les parcelles, parce qu'il y en avait quelques-unes chez les paysans. Et donc du 1er août au 10 août, je traînais sur les parcelles, et le 10 août, on m'a dit, bon, écoute, ça y est, les financements sont arrivés, t'es employé pour ce projet depuis le 1er août. Voilà, et donc j'avais un contrat jusqu'au 31. Et voilà, ça a été repris donc par Bio d'Aquitaine, mais c'était Agrobio-Périgord qui était le porteur direct du projet. La particularité par rapport à d'autres projets, c'est que c'était purement paysan. On n'avait pas de chercheurs pour nous accompagner, enfin sur des programmes spécifiques. Donc on n'a pas fait de recherche participative directement. On a participé à partir de, si mes souvenirs sont bons, en 2007, à des programmes, mais des programmes généraux, où Agrobio-Périgord avait une partie. Dans un programme global, c'est le FSO, Solibam et d'autres, et ça a duré encore un peu. Voilà. Donc, quoi dire de plus ? Si on a donc fait quelques voyages, notamment au Brésil, où on a ramené des choses intéressantes, notamment deux, donc des protocoles de sélection sur maïs, avec Altair Machiado, qui était chercheur à l'équivalent de l'INRA, donc l'AMBRAPA au Brésil, et qui lui avait été appelé pour travailler sur un protocole pour créer des variétés. Et donc il avait réussi à créer au moins deux variétés, dont une qui s'appelait Soldamania.
Variété population.
En partant de population. Et pendant ce voyage au Brésil, on a découvert aussi les maisons de la semence. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît, je ne vais pas vous les présenter, mais c'est vrai qu'on a ramené ça dans nos sacoches, avec de nouveau des graines, même si elles n'étaient pas trop adaptées pour chez nous, mais bon, on a fait les deux, on a ramené l'idée des maisons de la semence. Donc là-bas, pour expliquer comment elles tournent, je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement d'ici, vous connaissez mieux que moi. En gros, c'est des paysans qui sont souvent du même village, qui sont voisins. C'est beaucoup de petites fermes. Et là, donc, ils sélectionnent un peu comme sélection massale traditionnelle dans leur coin. Et à la fin du compte, ils stockent souvent chez eux, indépendamment des autres, dans leur petite ferme. Ou alors, ils font un petit groupe. Et ils stockent dans une maison un peu plus grande que chez eux. Et ils prennent ce dont ils ont besoin, et au retour à la récolte, ils ramènent une quantité qui va être de nouveau conservée dans la maison de la semence. La particularité qu'il y avait, que je trouvais très intéressante, c'est que comme ça marchait beaucoup, les maisons de la semence chez eux devenaient rapidement grandes. Donc ça partait avec une dizaine de paysans. Et puis tout à coup, il y en avait 60, il y en avait 100. Et ils avaient l'habitude, c'est qu'autour de 40-50, il fallait créer une nouvelle maison de la semence. Et ils n'étaient pas là sur un processus qui grossisse enfin. On connaît nous avec les coopératives et tout un tas de sortes, on connaît tout ça avec les plateformes, les grandes surfaces, etc. Donc moi ça m'avait intéressé beaucoup, ça m'avait même interpellé, parce que j'étais vraiment dans l'autre sens de ce qu'on peut trouver chez nous. Ensuite, on a travaillé avec Adrio Canzi, qui était un technicien qui travaillait aussi sur des créations et du maintien de population maïs. Donc là, on a ramené, c'était la deuxième fois, je crois, on a ramené un protocole, ou c'est lui qui l'a amené plutôt, de création avec une dizaine de variétés. Je vous passe les détails, mais voilà, c'était assez intéressant. Et donc on reste sur des... On ne peut pas appeler ça des hybrides de population, mais des mélanges, ou c'est pas... Voilà, en tout cas, on arrivait à avoir une variété relativement, comment dire, homogène, voilà, avec tout ce que ça implique comme précaution, évidemment, avec les qualités qu'on souhaitait dès le départ, quoi. Ça peut être la précocité, etc. On a eu à un moment donné aussi, mais ça c'était purement spéculatif, on a travaillé avec un sélectionneur indépendant qui s'appelait Guy Thiébault. Bon, j'hésite à le dire, mais là, c'était un petit peu du folklore. Ça rassurait beaucoup nos financeurs. À l'époque, on était quand même un peu sur le qui-vive de tout ce qui pouvait nous aider. Et puis, on passait un peu pour des fous, un peu pour des gens qui dérangeaient, surtout le GNIS. Et donc, on avait trouvé cette alternative. Ben, on va créer un hybride de population grâce à notre sélectionneur indépendant. Et puis, on a suivi un processus d'hybridation traditionnelle pendant 4-5 ans. On a obtenu 2-3 petits résultats. Une fois qu'ils ont été ressemés, évidemment, c'est parti faire ce qu'ils avaient envie de faire. Mais voilà, ça c'était vraiment c'était un aspect politique de la chose pour les financeurs, en gros. Mais ça restait intéressant, mais sincèrement, ça valait pas le détour. Faut le dire de plus. Oui, alors ce qui est... Bon, le maïs, on a beau faire, hein, c'est qu'il soit une population qui soit sélectionnée pour être en agriculture bio, etc. Le maïs restera toujours gourmand et assoiffé. Ça, on ne peut pas y échapper. Par contre, si on reste raisonnable sur des populations qui sont qu'on va améliorer, enfin, qu'on va conserver, etc., et qui ont des qualités culinaires, là, ça vaut le détour. Donc, avant que je termine, mais je pense que Elodie pourra confirmer, je pense que ça continue, on a commencé un travail de sélection et d'utilisation du maïs pour l'alimentation humaine, donc tout ce qui était polenta, etc. Et d'ailleurs, Laurence, qui n'est pas là, elle est peut-être en train de préparer le repas, a participé aussi à faire des essais, créer des nouvelles recettes, retrouver des anciennes, etc. Moi, à un moment donné, j'ai même cuisiné le charbon du maïs, c'est excellent, conseil. Alors, attendez pas qu'il soit noir, prenez-le plutôt un peu blanc, rosé, c'est super bien. Voilà. Merci.
Bonsoir, je suis Véronique Chable, je travaille à l'INRA depuis 40 ans, moins 15 jours. Depuis 15 jours, j'ai fêté mes 40 ans dans la maison. Avec l'objectif initial, c'était de travailler comme pour l'agriculture biologique. Donc j'ai beaucoup travaillé qu'est-ce qu'était l'agriculture biologique. Et 20 ans après, au moment de 1999, s'est pointé deux occasions de travailler vraiment selon les objectifs initiaux. Entre-temps, j'ai travaillé pour les producteurs de choux-fleurs en Bretagne, donc je me suis fait la main sur les variétés de choux. Et il faut savoir que le premier hybride de choux-fleurs avait été cultivé en 1989. Donc pendant très longtemps, je n'ai côtoyé que des populations paysannes. Et donc la culture de la population paysanne est encore vivante en Bretagne. Donc ce n'était pas un enjeu pour les Bretons. Donc je suis rentrée dans la science paysanne par deux voies. Donc je connaissais Nicolas Supio qui lui cherchait des graines aussi. À la fin des années 90, il cherchait des collections pour faire son pain. Donc je me suis arrangée aussi à sortir les collections de Clermont-Ferrand pour lui donner. Et de l'autre côté, il y avait des producteurs de choux en Bretagne qui étaient face à la même réglementation, qui était de produire bio avec des semences bio. Mais eux ont pris la question d'une autre façon, c'est-à-dire qu'ils se rendaient compte que les variétés modernes, c'est-à-dire à partir du moment où il fallait produire des semences bio, avec quelles variétés? Et les variétés modernes qui étaient proposées pour l'agriculture biologique étaient finalement toutes issues de biotechnologie. C'est là que j'aurais fait pour comprendre qu'il n'y avait pas un chou sur le marché qui n'était pas issu de biotechnologie, et c'était tout à fait incohérent avec les principes de l'agriculture biologique, de la naturalité des variétés. Et comme ils avaient un passé très récent de la connaissance des populations, de la sélection, ça a été très facile de repartir avec eux et de redémarrer des programmes de sélection à la ferme avec les paysans. Et comme en sortant toute fraîche étudiante à l'INRA, ça a été de mettre au congélateur les ressources génétiques de choux qu'on avait collectées en France, bah, j'avais sous la main aussi toute la collection des choux et choux-fleurs en française pour leur proposer, comme je savais que le boulot avait été fait de la même façon en Italie, au Pays-Bas, partout, c'est peut-être l'occasion aussi d'aller voir ce qu'ont fait les voisins, les Italiens, etc. Et c'est là qu'on a commencé à sortir les choux de couleur. Donc ça a été l'occasion de ressortir les anciennes populations paysannes bretonnes, mais en même temps les populations paysannes d'autres pays. Et on a marché, on a découvert ensemble qu'on faisait de la sélection participative parce que le nom n'était pas connu non plus à la fin des années 90, début des années 2000. Et comme on avait, quand Oswin s'est présenté, ben, on s'est dit on va tous ensemble. Et surtout que Maria était venue nous voir, elle avait passé plusieurs jours avec nous et elle avait pas mal circulé sur les expériences bretonnes. Et d'ailleurs, Maria, je la vois la semaine prochaine, on travaille toujours ensemble sur d'autres. Sur le même sujet. Et donc j'ai accompagné à la fois le mouvement blé breton et légumes, et puisque je me suis trouvée dans le membre fondateur et de Triptolème et de Colcause, dont je suis toujours membre aujourd'hui, et je suis même ancienne à Colcause encore actuellement. Donc on a avancé ensemble, on a avancé aussi avec le réseau. Moi, avec Colcause, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais bon, ça se stabilise aujourd'hui et on fait toujours des choses très sympas avec Colcause. Donc Colcause est quand même une association dynamique, on est sur le territoire. Les maisons des semences sont vivantes, mais ils sont moins collectifs sur le réseau, puisqu'ils sont tous bien ancrés dans leurs travaux. Donc tout ça, nous en tant que chercheurs, on n'a pas d'autre solution que de bosser à l'intérieur de projets de recherche. Mais ça a été très stimulant puisque ces premiers projets, surtout le projet Chou, quand j'ai voulu continuer au niveau de l'amélioration des plantes, on a pu démarrer parce qu'il y a eu un appel à projet dans les années 2000 à l'INRA. Puisqu'il y avait eu un rapport RICOIS comme en 97, comme quoi l'INRA ne faisait rien pour la bio et il fallait des exemples. Il fallait quelques chercheurs volontaires pour montrer qu'on était capable de travailler pour la bio. Les Dominiques et les premiers chercheurs volontaires, mais quand je souhaitais continuer, là c'était pas possible. Et donc j'ai dû changer de département de recherche. Mais à partir de là, aussi avec les contacts européens, au niveau européen, on a créé l'EPB, la coordination européenne pour la sélection bio. Et en fait, tout ce qui a été blocage a finalement été des avantages pour pouvoir aller plus loin, étendre le réseau, tisser des liens, comme dit Jean-François, beaucoup plus large. Et donc, tout ça, c'est parti par un réseau de recherche, un réseau paysan, et aussi au niveau international avec l'Europe, et la Récession de Marie, la Rade des Séliens.
C'est bien, oui.
Merci beaucoup.
Je m'appelle Éric Marchand et je produis des semences, des plants et des légumes à Jardin en Vie, une ferme coopérative. Ben, moi, je n'étais pas là au début du réseau, ni au début des croqueurs de carottes. Ça devrait plutôt être Philippe, mais je ne sais pas s'il est...
Il est cache.
Ouais, se cache, voilà. Qui pourrait présenter des débuts. Ou d'autres qui sont plus là, malheureusement, comme Jean-Luc ou François.
Moi, je vais essayer de parler, je m'excuse parce que j'ai un peu de problème de voix. Donc, Philippe Catineau, je suis paysan, artisan semencier au Biogerbe depuis 1998 et bientôt à la retraite.
Voilà.
Donc, oui, on a eu l'occasion dans les années à peu près 2003-2005 de se retrouver plusieurs fois, toujours à cause des contraintes réglementaires. Et du coup, pour nous, ça a été important de se regrouper entre artisans semenciers. Ça s'est fait à la base à Germinance. Et petit à petit, c'est devenu aussi quelque chose d'important par une amitié entre trois personnes. François Delmont de Germinans, Jean-Luc Beau de Graines del Pays et moi-même de Biogerme. Voilà. Donc, à partir de 2005, on a cherché une dynamique pour travailler ensemble sur toutes ces questions et on faisait des échanges aussi entre nous. Je laisse Eric continuer. Merci.
Voilà, donc moi personnellement, j'ai été sensibilisé à la question de la biodiversité par mon grand-père qui est un des fondateurs des croqueurs de pommes. Tout petit, j'apprenais déjà à greffer, etc. Mais j'ai démarré par de l'informatique. Je n'étais pas du tout paysan au départ. Par contre, j'avais créé les premiers serveurs Internet 100% logiciel libre dans une coopérative. Et je suis en fait venu à la semence à travers le logiciel. Parce que, fin des années 90, on a vu que le brevet arrivait sur la semence, tel qu'il était arrivé sur le logiciel, et on s'était dit que c'était pas possible que le vivant se privatise, mais je connaissais pas du tout le réseau, les confédérations, je connaissais un petit peu, mais pas vraiment. On s'est dit qu'il fallait qu'on essaye d'appliquer ce qu'on avait pu faire pour modèle économique sur le logiciel libre, sur la semence, pour éviter que le vivant devienne une propriété privée. Voilà, c'est comme ça qu'on a démarré lorsqu'il y a eu des OGM près de chez nous, dans la Drôme. On a tout de suite voulu se poser aux OGM en faisant une proposition alternative. C'est-à-dire qu'on a commencé à plusieurs à tester d'autres semences. Donc c'était avant que le réseau existe, hein, c'était 2001 à peu près. On a commencé à ressemer des semences des anciens. Et là, un jour, Guy Kessler nous a demandé de venir au réseau. Pour remettre de la diversité aussi au niveau du réseau, c'est comme ça qu'on a découvert l'existence des croqueurs de carottes. Et là, c'était un endroit assez formidable puisque justement Philippe, François, Jean-Luc, tout ça nous a accueillis et on a pu intégrer très facilement ce groupe-là et apprendre les uns des autres. Ça a été vraiment quelque chose d'assez extraordinaire et qui continue, qui a été un peu mis en parenthèse à certains moments, notamment avec le Covid, mais qui continue. Et pour moi, les croqueurs de carottes ont existé aussi parce que les potagers présentent une particularité par rapport aux semences grande culture. C'est qu'on a besoin, en tant que maraîcher, d'avoir de très nombreuses espèces sur la même parcelle et des espèces qui sont plutôt allogames. Donc on a du mal à pouvoir toutes les semer, les produire soi-même pour être autonome. Donc, il y a nécessité de s'organiser à plusieurs et de faire des échanges. C'est là où les artisans semenciers ont commencé, depuis longtemps. Belgium, c'était depuis les années 70. François avait démarré à peine plus tard. Il y a besoin de les échanger, donc de les commercialiser. Et du coup, on a eu un rapport différent avec la législation. On a eu davantage de contrôle. On a vu les gendarmes débarquer, Monsieur Billotte, à l'époque de CNIS, qui venait dans nos champs. Ouais, et les croqueurs de carottes, c'était aussi ça. C'était aussi le moyen de faire face, de se défendre. Philippe s'y est beaucoup investi, en sorte qu'on puisse avoir le droit de vendre des plants issus de semences non inscrits au catalogue quand on est maraîcher. Effectivement, le besoin de se mettre un peu entre eux pour travailler cette dimension un peu spécifique, cette relation aussi à l'autorité, pour faire de la maintenance du coup, de variétés potagères et avoir une discussion avec le GBS, le SOC et le GNIS. Et à travers des personnes des croqueurs de carottes, des représentants dans les zones d'essai officielles. Donc ça maintenait un peu un lien avec l'autorité, en quelque sorte. Et en même temps, entre nous, on avait des expérimentations pour travailler d'autres pistes, plutôt que la sélection, on a mis en place le terme de coévolution. pour travailler sur, sur nos semences. Voilà, c'était aussi pour moi le développement des coiffures de carottes, l'expression aussi de, d'une zone de travail où on pouvait travailler tranquillement. Parce que ça n'a pas toujours été non plus un enfer tranquille, hein, le réseautement spécial. Mon premier souvenir, c'est la Saint-Jean-du-Gard, avec une querelle sans nom. Entre.
Les coqs.
Voilà. On a fait prendre nos jambes à nos coups et s'enfuir. Il y avait Dominique Guillet à l'époque, encore. Et en fait, il était absolument impossible de travailler sans créer un espace où on pouvait être. Je parlais, tout simplement. Voilà, donc c'était aussi ça, hein, c'est ce moment-là. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a pu. Finalement surmonter ça et travailler ensemble. Bien.
Merci beaucoup, ça file très vite. On n'a pas pu aller très loin sur les programmes européens. On va y revenir tout à l'heure. Patrice, tu t'es un petit peu coupé, mais voilà, ça passe un peu trop vite. Et il y a 5 minutes pour le public si jamais il y a des gens qui veulent compléter, intervenir, s'insurger, réagir.
Moi, je voulais juste deux mots, rendre un peu hommage aussi quand même à Bertrand Lassaigne. Il avait une expression, il disait toujours, quand on est en Amérique du Sud, on a appris un nouveau mot, c'est qu'eux, ils disent pas les semences paysannes, ils disent les semences créoles, ils disent on a créolisé les semences. Et ben moi, je trouve qu'au réseau semences paysannes, on a repaysanné aussi les semences, et maintenant, il y a les semences paysannes. Et toi, on va aimer.
On va faire un petit hommage à Jean-Luc Gros, là, aussi. Ouais.
Juste un petit hommage aussi à Nicolas Supiot, qui n'est pas parmi nous, mais qui a été cité tout à l'heure par Véronique et qui aurait bien voulu venir, mais il est avec des pays anciens. Voilà, mais on le retrouvera certainement au rencontre internationale.
On a terminé cette deuxième partie. Rendez-vous au prochain épisode pour en apprendre plus sur les luttes du réseau. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du réseau Semences Paysannes ou sur sa page Facebook. À très bientôt sur Brève de Semences.